Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Le baptême nous ouvre la porte de l'Église. La confession est comme un second baptême. Durant sa catéchèse ce mercredi, le pape s'est longuement exprimé sur les sacrements du baptême et de la réconciliation. François a également prié pour les enfants en Syrie et les victimes aux Philippines. Dans ce magazine, nous donnons la parole au cardinal Taglé, président de la Caritas Philippines, archevêque de Manille. Le pape François sera reçu jeudi matin par le président de la République italienne. Troisième rencontre entre François et George Napolitano. Première visite officielle du pape au Quirinal depuis son élection il y a 8 mois. La diplomatie pontificale dans un monde globalisé, c'est le titre de l'ouvrage publié par l'ancien secrétaire d'État du Saint-Siège. Le cardinal Bertone a évoqué la mission qui fut la sienne pendant 7 ans. On y revient dans cette émission.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine en langue française de Radio Vatican. Le baptême, c'est la carte d'identité du chrétien. Arrivé en jeep, découverte place Saint-Pierre, à l'issue d'un bain de foule lors duquel il a béni de nombreux enfants, le pape a poursuivi ce mercredi sa catéchèse sur le credo devant 50 000 fidèles. En particulier sur cette phrase.
Professo un solo battesimo.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, la seule référence explicite à un sacrement dans le credo. Bernard de Cotigny.
Le baptême est la porte de la foi et de la vie chrétienne, la carte d'identité du chrétien. Or, Jésus ressuscité donna cette consigne aux apôtres. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La mission de l'Église est donc d'évangéliser et de remettre les péchés à travers le sacrement du baptême. Le pape a alors détaillé sa pensée en 3 points, explicitant « Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés ». Notre foi en la rémission des péchés liée au baptême, a insisté encore le pape, car le sacrement de la pénitence ou la confession est comme un second baptême qui renvoie au premier pour le consolider et le renouveler, a-t-il affirmé. Le baptême est aussi une immersion spirituelle dans la mort du Christ, vraie lumière, avec qui nous ressuscitons comme des créatures nouvelles. Il s'agit d'un bain de régénération et d'illumination. Le baptême remet le péché originel et tous les péchés, encore ajouté le pape, ainsi que les peines liées au péché. Toutefois, nous devons toujours lutter contre les impulsions du mal et l'action de Satan. Notre mère Église nous enseigne à confesser nos péchés avec humilité, car seulement dans le pardon reçu et donné, notre cœur peut trouver la paix et la joie. Le pape a aussi précisé que le sacrement de la pénitence n'était pas une séance dans une salle de torture, mais bien la célébration du jour de notre baptême.
En outre, une nouvelle fois, le pape a interpellé les fidèles pour savoir s'ils connaissaient la date de leur baptême, sacrement qu'il a défini comme la carte d'identité du chrétien, son acte de naissance dans l'Église. Et parmi les fidèles présents ce mercredi, le pape a salué en particulier 3000 personnes atteintes de maladies rares. Elles étaient accompagnées par le président du Conseil pontifical pour les opérateurs sanitaires, Mgr Zimowski, les malades de l'association Giuseppe Dossetti, qui œuvre pour leur tutelle au niveau individuel et collectif. Il voulait, ces malades, remercier le pape pour son engagement en faveur des plus faibles. Et toujours lors de l'audience générale, le pape François a dit sa douleur en apprenant qu'il y a 2 jours à Damas, en Syrie, des tirs de mortier ont tué 5 enfants qui revenaient de l'école chrétienne Saint-Jean-Damasène, située dans le quartier d'Al-Qassa, dans la capitale syrienne. Le chauffeur du bus scolaire a également été tué, 27 autres enfants blessés. « S'il vous plaît », a dit le pape, « prions pour que ces tragédies n'arrivent plus ». Ces jours-ci, nous prions aussi, a-t-il poursuivi, nous unissons nos forces pour aider nos frères et sœurs des Philippines frappés par le typhon. Voilà les vraies batailles à combattre, a expliqué le pape, pour la vie et jamais pour la mort. Et puis sur place, aux Philippines, face à la situation d'urgence humanitaire, l'Église se mobilise pour aider les victimes et les soutenir. Outre la neuvaine de prière amorcée mardi, la conférence épiscopale a annoncé que la campagne de solidarité du Carême 2014, elle sera entièrement dédiée au soutien de projets de réhabilitation et de reconstruction des zones détruites par le typhon dans le centre de l'archipel. À Manille, la capitale du pays, le diocèse a exprimé sa solidarité par la voix du cardinal Luis Antonio Tagle, qui est également président de la Caritas philippine. Solidarité, appel au don, appel à la prière. Le cardinal Luis Antonio Tagle revient sur ce drame, sur l'action de l'Église, la solidarité des fidèles. Il s'agit d'un sujet préparé par Audrey Radondi.
Environ 20 typhons touchent chaque année les Philippines, mais selon le cardinal Luis Antonio Tagle, l'archevêque de Manille, c'est la première fois qu'il est aussi dévastateur.
À chaque fois que nous voyons des images de destruction, nous restons sans voix. Nous devons encore nous remettre du choc émotif et psychologique. Je suis profondément consolé lorsque je vois et j'entends des témoignages de foi, et spécialement ceux des victimes. Ceux qui ont perdu des êtres chers, leur maison, s'adressent à Dieu et disent « Nous avons confiance en Dieu. Nous savons qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons survivre. »
Après le passage du typhon, le diocèse de Manille a contacté les paroisses de l'archipel philippin. Certaines sont encore injoignables par téléphone ou par Internet.
Les églises locales de ces zones touchées souffrent également de nombreuses pertes. Donc la plus grande partie de l'aide ne vient pas de ces diocèses, mais de l'extérieur. Pour le moment, avec l'archidiocèse de Manille, diocèse voisin, les diocèses suffragants, la commission épiscopale et l'action de la Caritas philippine, nous coordonnons la plus grande partie des efforts pour atteindre les personnes touchées, qui n'ont pas encore été rejointes par leur pasteur.
Et il y a urgence, certaines personnes risquent de mourir parce qu'ils ne recevront pas de l'eau, de la nourriture ou des médicaments.
Voilà pourquoi les gens d'église, les organisations non gouvernementales, les agences de gouvernement et l'armée également, nous sommes tous en train de faire notre possible pour atteindre chaque endroit et procurer de l'aide. Ce n'est pas toujours facile, mais chacun essaie de faire de son mieux.
Et comme l'a remarqué le cardinal Luis Antonio Tagle, des laïcs catholiques des zones non touchées par le typhon se mobilisent pour apporter leur aide.
C'est une source de grande consolation et de force. Nous voyons partout de la destruction, des ruines, mais aussi de la foi et de l'amour qui surgissent de ces ruines. Et cela nous rend plus forts. Je veux remercier tout le monde, le Saint-Père, les mères et les sœurs en dehors du pays, car ils se sont souvenus de nous et ils cherchent à faire leur possible pour nous rejoindre. Au nom des victimes et des pauvres, nous vous remercions vraiment.
Pour aider les victimes, l'archidiocèse de Manille a créé une page spéciale sur son site internet pour recevoir des dons. L'argent reçu permettra de reloger les victimes.
Une prière en anglais est également disponible sur le site de l'archidiocèse. Le cardinal Tagle a demandé à toutes les paroisses de la réciter lors des messes et aux croyants de l'utiliser s'ils le souhaitent pour se recueillir. La crise profonde de convictions, de valeurs, d'idées offre à l'activité diplomatique une nouvelle opportunité qui est en même temps un défi. Tels sont les mots du pape François dans la préface qu'il vient de signer d'un livre du cardinal Berton. L'ancien secrétaire d'État vient en effet de publier « La diplomatie pontificale dans un monde globalisé », un recueil de textes écrit par celui qui fut pendant 7 ans le numéro 2 du Saint-Siège et qui a multiplié à ce titre les voyages sur les 5 continents. L'ouvrage était présenté ce mardi soir au Vatican. Il dresse un panorama de l'influence du Saint-Siège dans le concert des nations. Le reportage d'Olivier Bonnel.
La diplomatie vaticane a une voix singulière au sein des relations internationales. Pour Mgr Dominique Mamberti, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, l'édification de la paix et la culture du dialogue sont au cœur de sa mission diplomatique. Le Saint-Siège œuvre également à développer un sens de la responsabilité partagée par l'Église et la communauté internationale. Pendant 7 ans, à la tête de la secrétaire d'État, le cardinal Berton a été la voix de cette Église en dialogue avec le monde. Une voix très respectée, en particulier en Europe, comme l'a rappelé Hans-Gert Pöttering, ancien président du Parlement européen.
As far as Europe is concerned, Cardinal
En ce qui concerne l'Europe, le cardinal Bertone a toujours soutenu l'unification et l'a exprimé dans ses discours. J'espère que ces discours sont un exemple pour d'autres personnes dans l'Église afin qu'elles supportent l'unification de notre continent. Dans l'Union européenne, on entend beaucoup de critiques, mais je crois que l'Europe a besoin d'encouragement de la part de l'Église et réciproquement. Travaillons donc ensemble pour mieux unifier l'Europe. Mais il y a un second fil rouge à la diplomatie du Saint-Siège, la lutte contre la pauvreté. Un préalable au respect de la dignité de l'homme qui est au cœur du message de l'Église. Une présence auprès des plus démunis que le cardinal Bertone lui-même n'a pas manqué de rappeler dans ses souvenirs de voyage. Il y a le souvenir des visites aux populations touchées par des catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre au Pérou ou au Chili. Cet engagement de l'Église pour soulager les souffrances de tant de populations et l'appel à la solidarité, que l'Église ne cesse de proclamer à tous, spécialement à ceux qui n'ont plus rien. Dans un monde globalisé, la diplomatie pontificale sait faire entendre sa voix. Elle a œuvré avec influence pour imposer la notion de consensus dans les relations internationales. Une voix de plus en plus écoutée sur la scène mondiale, comme le souligne Vincenzo Buonomo, professeur de droit international à l'Université du Latran.
La diplomatie vaticane a aujourd'hui un langage qui est un langage compatible avec le langage des organisations intergouvernementales, des grandes conférences internationales et aussi dans les rapports bilatéraux. Alors je pense qu'à travers le langage, la possibilité d'obtenir et de donner à le débat international comme finalité la protection de la personne, de sa dignité. Et je pense que le Saint-Siège peut être écouté par les différents acteurs des relations internationales.
Après un septennat au service de deux papes, le cardinal Bertone a désormais tiré sa révérence. Son successeur, Mgr Pietro Parolin, est désormais le visage de cette église multilatérale.
Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église orthodoxe et l'Église catholique ont des occasions importantes pour travailler ensemble, pour notamment défendre l'Europe chrétienne, protéger le droit des minorités au Moyen-Orient, en Syrie. C'est ce qu'a dit le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Kirill, durant sa rencontre advenue mardi matin avec l'archevêque de Milan, le cardinal Angelo Scola. Kirill a fait l'éloge des différentes positions du pape, y compris celle à propos de la crise syrienne, ajoutant qu'il partage la ligne de François. Durant la rencontre, le patriarche russe a en outre condamné la persécution cachée des chrétiens sous la bannière de la tolérance et du multiculturalisme. En Chine, le 28 octobre dernier, Mgr Pierre-Louis Guandong, l'évêque émérite et clandestin du diocèse de Yixian dans la province du Hebei, est décédé. Décédé à l'âge de 94 ans, celui qui fut le président de la conférence des évêques catholiques clandestins de Chine, il vivait caché depuis 1997. Dans la plus stricte clandestinité, il a été inhumé le 29 octobre dernier dans un lieu tenu secret. Vous retrouvez plus ample information sur la vie de cet évêque clandestin chinois sur internet www.radiovaticana.va. Après son élection, le pape François effectuera ce jeudi matin à 11h une visite officielle au Quirinal, la résidence du président de la République italienne. Le Saint-Père et Giorgio Napolitano se sont déjà rencontrés à trois reprises. Leur dernière entrevue remonte au 8 juin dernier lorsque le président italien s'était rendu en visite d'État au Vatican. Les deux hommes se connaissent donc déjà, mais c'est la première fois depuis son élection, le 13 mars 2013, que le pape se rend au Quirinal, dans le centre de la ville éternelle. Il marche ainsi sur les pas de ses prédécesseurs, de Pie XII à Benoît XVI. Hélène Destombes.
Le pape François sera le 6e pape à se rendre au Quirinal, le 5e après la naissance de la République italienne. C'est Pie XII qui inaugurera ses visites papales le 28 décembre 1939 en rencontrant le roi Victor Emmanuel III qui, 7 jours auparavant, s'était rendu au Vatican. Jean XXIII fut, lui, en juillet 1962, le premier à se rendre au siège de la présidence après la naissance de la République. Suivirent ensuite Paul VI, puis Jean-Paul II, qui rencontra à trois reprises les chefs d'État italiens, et enfin Benoît XVI, qui se rendit à deux reprises au Quirinal. C'est au cours de sa dernière visite, en 2008, qu'il rencontra l'actuel président italien. Giorgio Napolitano, âgé de 88 ans, a été fait inédit dans l'histoire de la la politique italienne, réélu pour un deuxième mandat au Quirinal le 20 avril dernier, en pleine crise politique. Le pape François avait alors salué sa grande disponibilité et son esprit de sacrifice, l'invitant à poursuivre son action éclairée et sage. Reconnu pour sa stature d'homme d'État, Giorgio Napolitano partage de nombreuses préoccupations avec le Saint-Père, conséquence de la crise économique et sociale, drame de l'immigration. Dès l'élection du pape François, il avait d'ailleurs rappelé que les liens solides et les rapports de collaboration entre le Saint-Siège et l'État italien visent à chercher le bien commun et à promouvoir un ordre international qui assure les droits inviolables, la dignité et la liberté de la personne humaine, la paix et la justice sociale.
Premier geste du pape François en direction des traditionalistes non schismatiques. Le pape a accordé sa bénédiction apostolique à la fraternité sacerdotale Saint-Pierre à l'occasion du 25e anniversaire de sa fondation en 1988 près de Fribourg. Quelques membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui refusaient de suivre Mgr Lefebvre dans le schisme ont fondé cette communauté sacerdotale qui œuvre à la formation, à la sanctification des prêtres dans le cadre de la forme extraordinaire du rite romain, la forme en usage avant le Concile Vatican II. La fraternité Saint-Pierre compte aujourd'hui plus de 400 membres à travers le monde. On revient tout de suite sur le message envoyé par le pape François à la fraternité Saint-Pierre, Manuela Fidji.
Dans un courrier adressé le 29 octobre dernier à l'abbé Vincent Ripton, supérieur du district de France, par Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en France, le pape François estime qu'en célébrant les mystères sacrés selon la forme extraordinaire du rite romain, les membres de la fraternité de Saint-Pierre contribuent dans la fidélité à la tradition vivante de l'Église, à une meilleure compréhension et mise en œuvre du Concile Vatican II. Le pape les exhorte selon leur charisme propre à prendre une part active à la mission de l'Église dans le monde d'aujourd'hui, par le témoignage d'une vie sainte, d'une foi ferme et d'une charité inventive et généreuse. Le message rappelle enfin l'esprit des fondateurs qui, dans un grand esprit d'obéissance et d'espérance, se sont tournés avec confiance vers le successeur de Pierre afin d'offrir aux fidèles attachés au missel de 1962 la possibilité de vivre leur foi dans la pleine communion de l'Église. Le pape n'a aucun problème avec le rite préconciliaire, c'est ce qu'a de son côté affirmé le cardinal colombien Dario Castrillon Hoyos au vaticaniste Andrea Tornielli de Vatican Insider, l'ancien préfet émérite de la Congrégation pour le clergé, qui est actuellement le président de la commission pontificale Ecclesia Dei, en charge des rapports avec les lefévristes et d'autres groupes vivant la forme extraordinaire du rite romain.
Et une messe jubilaire sera célébrée le 16 novembre prochain à 10h à l'église Saint-Sulpice à Paris par l'abbé Vincent Ripton, supérieur du district de France de la fraternité Saint-Pierre, implanté également en Allemagne ou encore aux États-Unis. En France, pour plus de lisibilité et d'efficacité, les évêques ont procédé à la réorganisation en trois organes distincts de la coordination pastorale, nouvelles croyances et dérives sectaires. L'Observatoire des nouvelles croyances aura pour but de nourrir la réflexion sur ce que sont les croyances de nos contemporains, quelles en sont les motivations, quels sont les rayons de la vérité qu'elles peuvent apporter. Il favorisera ainsi une actualisation de la pastorale. De son côté, le Bureau des dérives sectaires a pour fonction de suivre ces dérives dans leurs manifestations actuelles pour pouvoir attirer l'attention, répondre aux questionnements des évêques. Le Bureau rédigera également un fascicule à remettre aux victimes pour leur rappeler leurs droits, leur indiquer les procédures à suivre d'un point de vue canonique mais également civil. Enfin, la mission écoute des victimes a été mise en place car, dans certains cas, les personnes victimes de ces dérives dans l'Église ont besoin d'être écoutées par un représentant de l'Église, à savoir un évêque désigné pour cette mission. En Croatie, l'Église est mobilisée contre la théorie du gender et contre le mariage homosexuel que souhaite introduire le gouvernement de centre-gauche. Environ 750 000 Croates sur 4,2 millions d'habitants ont ainsi soutenu la revendication du collectif « Au nom de la famille » pour une constitutionnalisation du mariage hétérosexuel. Les députés les ont suivis, soucieux de barrer la route à un futur mariage homosexuel. Dans ce pays à 90% catholique, vendredi dernier, les députés ont voté à 69% en faveur de la tenue d'un référendum, un vote populaire qui aura lieu le 1er décembre prochain, sur l'inscription donc dans la Constitution du mariage en tant qu'union entre un homme et une femme. Le Premier ministre Milanovic s'est opposé à cette idée. Il reproche au comité d'initiative son manque de tolérance envers les minorités. Jusqu'à présent, la constitution croate stipule seulement que la famille est sous la protection particulière de l'État. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle notre adresse internet www.radiovaticana.va. Vous pouvez vous y rendre avant de nous retrouver demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine.